Et on commence avec une étude parue dans la revue Science, une infection par le variant Omicron apporte un renforcement immunitaire faible.
Oui, à la fin de l'année 2021, nous sommes entrés dans l'ère Omicron. Un peu comme sur le modèle de la grippe saisonnière, on voit un échappement immunitaire partiel avec ici, tous les deux mois, une nouvelle souche qui circule. Omicron BA1 et aujourd'hui BA4 et BA5. Alors dans cette étude, une équipe britannique a mesuré les capacités immunitaires au niveau cellulaire face à différents variants et en fonction des différents historiques d'infection et de vaccination. Ce travail montre que les personnes infectées par le variant Omicron présentent un faible renforcement immunitaire contre une réinfection au virus Omicron lui-même. En d'autres mots, une infection avec Omicron n'équivaut pas forcément à une dose vaccinale. On s'en doutait déjà avec le variant Delta par rapport au variant Alpha, et cette étude le confirme, Omicron n'est pas une bonne nouvelle pour l'immunité collective. Mircea Sofeneia est maître de conférence en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l'Université de Montpellier.
Ce qu'on remarque donc, c'est que les personnes qui ont été infectées par Omicron ne présentent pas une réponse immunitaire cellulaire qui soit comparable à celle vis-à-vis des variants précédents. Et même s'il y a réponse immunitaire pour les variants, mettons Wuhan, la souche historique, eh bien pour Omicron elle-même, la protection est moindre. Et pour les personnes qui ont été infectées par Wuhan, la souche historique, eh bien la réponse immunitaire cellulaire qui est mise en évidence est moindre vis-à-vis des variants suivants.
Donc ça signifie en effet que l'infection par Omicron échoue à induire une immunité cellulaire de qualité.
Voilà, c'est ça. En tout cas, qui n'est pas suffisante, si vous voulez, pour bâtir une stratégie de santé publique sur l'infection collective pour se protéger contre des futurs variants. Mais si vous vous souvenez bien de cet état d'esprit qui était en particulier porté par l'exécutif au mois de janvier, on disait, regardez, ce variant est moins virulent, c'est peut-être notre porte de sortie de la pandémie, si vous voulez. À un moment donné, on se disait, c'est la dernière vague, c'est le train qu'il faut prendre pour en finir plus vite. Mais on le savait déjà, à ce moment-là, qu'il y avait un lien entre la symptomatologie et la mémoire immunitaire. En effet, on avait remarqué que des personnes qui avaient eu des symptômes plus importants, eh bien, développer une immunité qui était plus robuste. Omicron étant moins virulent, intrinsèquement, faisant moins de formes graves, voire symptomatiques, eh bien, du coup, on ne pouvait que s'attendre à ce que l'immunité qu'il génère soit elle-même plus faible. Bon, là, il se trouve que c'est bien démontré qu'au final, on se retrouve avec une infection qui est moins virulente globalement, mais qu'en plus, elle immunise très peu, et ce, à la fois côté humoral, à savoir les anticorps, que côté cellulaire. Et que donc, dans cette nouvelle ère d'Omicron, les vagues sont amenées à se succéder, ne serait-ce que par le déclin immunitaire et par la faiblesse de l'immunité conférée, mais en plus parce que dans ce groupe Omicron, eh bien, on voit émerger des lignages, ce qu'on pourrait appeler des sous-variants, qui présentent en plus un échappement immunitaire. Et donc, on a ici des vagues qui se succèdent tous les deux mois.
Voilà, et vous pouvez retrouver l'étude de Science ainsi que l'émission que nous avions consacrée précisément à l'émergence de ce variant Omicron sur notre fil Twitter @lamethodefc et sur le site franceculture.fr. Et comme chaque vendredi, nous mettons en avant une étude fraîchement sortie des laboratoires français. Selon une étude parue dans la revue Journal of Applied Ecology, les méthodes mises en place pour protéger les oiseaux marins sont efficaces.
Oui, dans l'océan austral, la pêche s'intensifie depuis les années 1986. Et cette pêcherie entraîne la capture accidentelle d'oiseaux marins, les albatros, mais aussi les pétrels à menton blanc, un des oiseaux les plus capturés. Et on a vu en ces populations d'oiseaux de mer décliner. Dans les années 2000, on a donc mis en place des mesures de mitigation des captures accidentelles. Comme par exemple, ne faire des manœuvres de pêche que la nuit pour éviter que les albatros ne viennent se prendre dans les hameçons. Pour les pétrels à menton blanc, on a lesté les hameçons pour qu'ils coulent plus vite, pour que les oiseaux n'aient pas le temps de les chercher en plongeant dans l'eau. Ou encore, on a mis des banderoles d'effarouchement autour des lignes d'hameçons pour que les oiseaux ne puissent pas venir dessus. Grâce à des données de terrain sur 30 ans, cette équipe française a ainsi évalué l'efficacité de ces mesures. Anaïs Dasnon est doctorante en écologie, encadrée au CNRS, au Centre d'études biologiques de Chizé. Elle est la co-signataire de cette étude.
On a d'abord des données de capture, marquage, recapture. C'est le fait de, tous les ans, aller capturer des oiseaux, leur poser des bagues, de revenir ensuite et de voir si on revoit ces oiseaux sur lesquels on a des bagues qui permettent de les identifier. Et donc, si un oiseau est recapturé et identifié une deuxième, troisième, quatrième fois, on sait qu'il a survécu entre la fois d'avant et cette fois-là. Et donc, en faisant ça avec plein d'individus et sur un temps suffisamment long, on arrive à estimer une probabilité de survie. On montre effectivement une efficacité de ces mesures sur les populations de pétrels à menton blanc, de crozet en tout cas, puisque on voit une réaugmentation de la population depuis le début des années 2000, qui correspond à la mise en place des mesures de mitigation. Et on voit aussi que les densités de couples reproducteurs sont revenues actuellement à des densités qu'elles étaient avant la constatation de la diminution de la population, donc dans les années 80. En fait, c'est une étude qui est assez holistique dans le sens où on a pris plusieurs paramètres de cette population, notamment la survie, le succès reproducteur et les densités de couples reproducteurs. Et tous ces paramètres démographiques vont dans le même sens d'une réaugmentation de la population. Et ce, depuis la mise en place des mesures de mitigation. Donc ça va plutôt dans le sens d'une efficacité de ces mesures. Alors qu'avant ça, on voyait une diminution de ces paramètres ou alors des taux de ces paramètres qui n'étaient pas suffisants pour que la population puisse se maintenir dans le temps. Donc la population allait vers le déclin, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
La bonne nouvelle de cette étude, c'est que si on veut protéger la faune aviaire marine, ça marche, il existe des mesures efficaces.
Oui, c'est ça, effectivement. Alors là, ça marche très bien pour les oiseaux, a priori, puisque les populations d'albatros aussi ont l'air de mieux en mieux se porter. Il faut quand même pas oublier qu'il n'y a pas que les oiseaux marins qui sont impactés par les captures accidentelles. Il y a aussi les requins, les raies, les tortues et même des mammifères marins, certains dauphins, des phoques. Et que pour ces espèces-là, il y a moins de suivi et il y a du coup aussi moins de mesures de protection qui sont mises en place. Et donc c'est pareil, ce sera bien à considérer dans le futur, autant de faire des suivis de ces populations-là que de mettre en place des mesures de protection.
Et également dans l'actualité scientifique cette semaine, Natacha, et en ultra bref.
Cette semaine, en Angleterre, des traces de virus de la poliomyélite ont été détectées dans les stations d'épuration du nord-est de Londres. Selon l'Agence britannique de sécurité sanitaire, entre février et juin, les eaux usées contenaient des traces d'une forme de polio dérivée d'une souche vaccinale. L'analyse génétique indique plusieurs chaînes de transmission, mais aucun cas humain n'a depuis été signalé et il n'y a pas de risque immédiat pour la santé publique. Cette semaine, on découvre que les premières haches à main anglaises, des outils en silex pour gratter les os, parmi les plus anciens artefacts d'Europe, on découvre que ces haches sont en réalité bien plus vieilles que nous ne le pensions. De nouvelles datations par radiofluorescence infrarouge révèlent qu'elles ont été fabriquées il y a environ 620 000 ans et qu'elles ont été conçues non pas par Homo sapiens, mais par Homo heidelbergensis. Et enfin, cette semaine, une expérience à grande échelle au Niger prouve que l'urine humaine peut être un engrais efficace, écologique et sûr. Pour éviter la fabrication d'engrais industriels, au bilan carbone important, plusieurs fermes ont utilisé de l'engrais urinaire après l'avoir désinfecté. Notre urine contient déjà du phosphore, du potassium et de l'azote, et les fermes qui ont utilisé cet engrais ont vu leur rendement augmenter de 30%. D'autres expérimentations sont prévues en Suède, aux États-Unis et en Australie.
Voilà, après l'avoir désinfecté, c'est important, hein, ne vous ruez pas tout de suite sur vos géraniums. Et pour finir ce dernier journal des sciences de la semaine, donc de la saison, puisque, je vous le rappelle, la semaine prochaine, ce sera, comme d'habitude, pour conclure l'année de la SF plein la valise. Et donc, notre dernière rubrique de sciences improbables, Natacha, a été publiée cette fois-ci dans Molecular Biology and Evolution, et elle nous éclaire sur la vie secrète des acariens, et en l'occurrence, des Demodex folliculorum.
Et au moment où je vous parle, Nicolas, plusieurs millions d'acariens vivent sur votre visage. Dans vos pores, ils se nourrissent de votre sébum. Une équipe internationale a séquencé le génome de cette espèce. Selon leurs résultats, ces acariens non seulement s'accouplent sur nos visages, mais ils fusionnent progressivement dans notre épiderme. Et ce n'est pas tout. On pensait que ces créatures n'avaient pas d'anus, qu'elles accumulaient les déchets avant d'exploser. Et cette étude prouve que les acariens ont de minuscules anus et qu'ils font leur déjection en permanence sur notre peau. Selon les auteurs, cette relation symbiotique permettrait peut-être à la peau d'être en bonne santé.
Voilà, et pendant qu'il y en a qui bossent, les acariens, eux, ils s'éclatent. Merci beaucoup, Natacha, et à lundi pour le prochain Journal des Sciences.